This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonjour, je suis Léa Chambroncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités en France. 9,8 millions, c'est le nombre de personnes pauvres que comptait la France en 2018. Selon l'Observatoire des inégalités, la France est, après la Suisse, le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. Au total, 1% le plus riche récupère presque 6% des revenus de l'ensemble des ménages. L'Observatoire fait également remarquer que même après redistribution par les impôts et les prestations sociales, les 10% les plus favorisés récupèrent 23,8% de l'ensemble des revenus, soit 2,4 fois plus que si le partage était égal. Dans notre pays, les écarts de patrimoine sont plus importants que ceux des revenus. En effet, le 1% le plus fortuné possède 17% de l'ensemble du patrimoine des ménages et les 10% les plus riches, presque la moitié. En outre, d'après la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel dans notre pays. Mais la pauvreté revêt d'autres formes d'exclusion. C'est notamment le cas dans le domaine de l'éducation, où l'on relève que 18% des Français de plus de 15 ans n'ont pas de diplôme ou seulement le certificat d'études. Par ailleurs, la France compte 7% d'illettrés parmi les 18-65 ans. La crise sanitaire actuelle exacerbe les inégalités et risque d'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour de nombreuses personnes en France et dans le reste du monde. C'est ce que redoute l'ONG Oxfam, qui affirme qu'entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la pauvreté, ce qui représente un demi-milliard de personnes. En France, cette crise accentue les situations de précarité. Nous savons notamment qu'à la suite du confinement, plus d'un tiers des actifs ont vu leurs revenus d'activité baisser. On peut alors se demander comment faire pour lutter contre la pauvreté et les inégalités de manière durable. Quelles solutions doivent être mises en place à court terme pour répondre à la crise actuelle ? Quelles priorités devront être définies après la crise ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France. Mais est-ce que nos députés savent quelle est l'ampleur de la pauvreté en France ?
Il faut avoir en tête quand même quelques chiffres qui doivent nous alerter, parce que la pauvreté est une réalité dans notre pays, en France. Ce sont 9 millions de Français, dont 3 millions d'enfants, qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois, qui correspond à 60% du revenu médian.
La lutte contre la pauvreté, c'est aussi un problème français, parce qu'on a toujours le sentiment que la pauvreté, c'est ailleurs. Que la pauvreté, elle est loin de nous, pas du tout, on le sait très bien. Elle est à nos portes, et donc évidemment qu'il faut d'abord y mettre des moyens. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a les mots, parfait, toujours, tout le monde est contre la pauvreté. Personne ne vous dira bien sûr qu'il est pour, ou qu'il la comprend, ou qu'il la justifie. Mais ensuite, la question, la vraie question, c'est quels moyens on met durablement sur les politiques contre la pauvreté.
La pauvreté extrême a plutôt tendance à, Malheureusement, ça gravit.
On estime être à peu près 6 millions de Français et de Françaises, ce qui est considérable, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou qui survivent avec des revenus, plus exactement, qui se situeraient en dessous du seuil de pauvreté.
C'est un phénomène qui demeure inquiétant. Le gouvernement en a pris parfaitement conscience en nommant Christelle Dubos secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté dès 2018, en installant des hauts commissaires dans chaque préfecture, des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté pour fédérer vraiment une action.
Tous les députés que nous avons interrogés sont conscients de l'ampleur du problème et sont inquiets des répercussions que la crise sanitaire actuelle pourrait avoir en matière sociale. Pour Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, il y a effectivement une aggravation de la pauvreté.
On voit aujourd'hui qu'il y a une aggravation des phénomènes de pauvreté. Il n'y a qu'à aller au-devant des associations, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, les banques alimentaires. Et on voit semaine après semaine, dans le moment où nous sommes là, que les files d'attente s'allongent. Pourquoi ? Parce que de façon très très simple à comprendre, quand vous êtes une famille avec des moyens qui sont modestes, que vous ne pouvez plus compter sur la cantine de midi pour nourrir les enfants, c'est tout de suite plus cher quand on va au supermarché, et donc ça met aujourd'hui des familles dans une grande précarité, une précarité qui s'est réellement aggravée au cours de ces dernières semaines. Dans ma ville, à Laval, vous savez, les Restos du Cœur, ils voient aujourd'hui 4 fois plus de personnes aux distributions qu'il y a un mois.
Même constat pour Lauriane Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine, qui relève que dans le contexte de la crise actuelle, la précarité devient de plus en plus importante.
Cette précarité, je crains qu'elle ne devienne de plus en plus importante, car je vois là, dans le cadre de la crise que nous vivons, des personnes qui n'étaient pas encore dans la pauvreté, qui commencent à basculer justement dans la précarité, parce que du jour au lendemain, ces personnes qui vivaient de petits boulots, de l'intérim, de contrats saisonniers, de CDD, arrivaient à joindre les deux bouts, ne bénéficiaient d'aucune aide puisqu'elles n'en faisaient pas la demande, elles arrivaient à boucler les fins de mois, et bien là, confinement oblige, chômage partiel oblige, perte d'emploi oblige, elles sont en train de basculer et on les retrouve aujourd'hui dans des files d'attente sur l'aide alimentaire. Donc là, on voit bien de nouveaux publics faire appel justement à la générosité des associations et à la générosité publique, et ça doit véritablement nous alarmer.
Face à cette situation, elle considère que les décideurs publics doivent agir très vite afin de venir en aide aux plus démunis, notamment en soutenant les associations et en réfléchissant à un revenu universel d'activité.
D'ores et déjà, il faut que nous travaillions, nous parlementaires, avec les élus locaux, sur la prise en charge de ces publics et les remettre, dès la fin du confinement, sur un parcours professionnel qui leur permette justement de ne pas chuter, parce que la chute peut être très très rapide. Il suffit de perdre un emploi pour ensuite ne plus parvenir à payer son loyer, perdre son logement, et là c'est la dégringolade. Donc c'est très très vite la mise à la rue et vous retrouvez ces personnes dans des foyers avec ensuite une difficulté supplémentaire à retrouver le chemin de la réinsertion. Donc au plus tôt nous agissons vis-à-vis de ces publics, au plus tôt elles sont en capacité ensuite de pouvoir reprendre pied et retrouver le chemin de l'emploi et de l'activité. Donc l'enjeu est énorme. Et donc nous sommes au travail avec mes collègues parlementaires pour justement tenter d'imaginer d'ores et déjà des solutions pour la suite. Il y a évidemment tout ce que nous avons voté, toutes les réformes que nous avons mises en place. Il faut continuer à les mener, les approfondir encore dans un contexte économique évidemment qui sera contraint au regard des dépenses de l'État dans ce contexte de crise. Et puis parallèlement, tenter d'imaginer de nouvelles solutions qui permettent justement de venir en aide aux plus fragiles qui seront sans doute demain plus nombreux. Donc il y a évidemment nos associations qui font un travail remarquable et qu'il va falloir aider davantage en imaginant peut-être aussi d'autres dispositifs autour du revenu universel d'activité notamment. Comment on pourrait insérer par exemple des activités bénévoles dans une association, dans ce dispositif-là, et reconnaître enfin que l'engagement associatif, l'engagement solidaire est aussi une forme d'activité finalement au service du bien commun et de l'intérêt général. En matière de transport, je l'évoquais tout à l'heure, là aussi, moi je me bats depuis maintenant plusieurs mois pour que les mobilités soient reconnues comme un service public essentiel et qu'on puisse en faire diminuer le coût, en tout cas le taux de TVA, en le ramenant à 5,5%. Bon, c'est une mesure parmi d'autres, il y en a bien d'autres, le forfait mobilité durable que nous mettons en place, 400 € pris en charge par les entreprises pour aider les salariés à emprunter des mobilités propre et durable. Donc, nous avons beaucoup d'idées aussi voilà, sur les mobilités, sur le logement. Là aussi, beaucoup à faire pour accélérer la construction de logements sociaux et accélérer la rotation au sein du parc de logements sociaux. Aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de logements vacants qui le sont parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça n'est pas acceptable au regard du nombre de personnes qui sont à la rue ou qui attendent un logement. Donc là, il faut qu'on soit beaucoup plus regardant et strict sur les délais de mise à disposition des logements et le relogement vers plus petit ou plus grand des personnes qui seraient d'accord pour déménager de manière à loger des grandes familles. Donc là, on a une loi qui nous aide, hein, la loi Élan que nous avons votée, mais il faut continuer, l'enjeu est très important.
Pour Guillaume Garot, il faudra mettre en place un grand plan pour répondre à la crise sociale suite à la crise sanitaire que nous traversons. Et il sera nécessaire d'insister sur l'accès à l'alimentation en proposant la création d'une couverture alimentaire universelle.
Alors, quelles propositions on peut faire ? Parce que il y a la crise sanitaire qui débouchera certainement sur une crise économique et donc aussi sur une crise sociale. Et je considère qu'on ne peut pas répondre à la crise de façon efficace si on oublie cette dimension sociale. Alors, moi, il y a des choses que je trouve qui vont dans le bon sens. Lorsqu'on a activé, le gouvernement l'a fait, le chômage partiel, très bien, ça permet de maintenir des personnes la tête hors de l'eau alors qu'elles seraient dans une grande difficulté si elles étaient licenciées, c'est clair. Mais on ne pourra pas se contenter, excusez-moi du terme, uniquement de ça. Et il faudra, franchement, à la sortie, un grand plan pour répondre à la crise sociale. Et je veux insister sur un point en particulier, c'est l'accès à l'alimentation. Moi, j'ai fait cette proposition dernièrement, à la fois au plan national, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificative, et au plan départemental, je suis conseiller départemental de la Mayenne, pour que on puisse attribuer des bons alimentaires aux familles qui sont aujourd'hui en difficulté. Ces bons alimentaires, tout simplement, pour permettre aux familles d'acheter de quoi nourrir les enfants. Ça, c'est très important qu'on ait en tête que dans la période où nous sommes et face aux difficultés d'accès à l'alimentation, eh bien, il doit y avoir là-dessus une action volontariste. Et plus largement, moi, une des propositions que je fais, et je réfléchis depuis plusieurs semaines, là, quand je vois ce qui se passe, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer en France une couverture alimentaire universelle ? De la même façon que, il y a 20 ans, le pays avait construit la CMU, la couverture maladie universelle. Eh bien, si demain, on travaillait à une couverture alimentaire universelle qui garantisse à chacun dans notre pays, qu'il aura accès à l'alimentation. Alors, ce n'est pas simple, évidemment, et c'est un changement de paradigme, c'est un changement de principe. Ça, je considère par là que l'alimentation, ça n'est pas une marchandise comme les autres, et qu'accéder à l'alimentation, c'est un droit fondamental. Et donc, je plaide et je veux travailler à mettre en place, dès qu'il sera possible, cette nouvelle sécurité sociale qui devrait être une sécurité alimentaire. C'est pas possible qu'on soit la cinquième puissance économique au monde, un pays qui produit des richesses, même si en ce moment on en produit beaucoup moins, mais un pays aussi riche que nous le sommes, ne pas garantir à chacun dans notre pays cet accès fondamental à l'alimentation, ben moi ça me pose question et je veux y apporter des réponses.
La députée LRM d'Ille-et-Vilaine, Laurence Maillard-Méhaignery, insiste, elle aussi, sur l'effet dévastateur de la crise pour de nombreuses personnes qui ont vu leurs difficultés s'accentuer très rapidement.
L'INSEE a communiqué sur un certain nombre de données liées aux inégalités pendant le confinement. Déjà, ils ont comptabilisé 5 millions de personnes qui vivent dans un logement suroccupé. Et c'est un quart des familles monoparentales qui sont concernées par ça. Il y aurait environ 10 millions de personnes qui vivent seuls dans leur logement en France, soit 16% de la population française. 13% des plus de 75 ans vivent seuls, résidant dans une commune sans aucun commerce d'alimentation générale de proximité. 12% des personnes n'ont pas accès à Internet à leur domicile, quel que soit le support. On ne parle même pas d'un téléphone, d'un smartphone. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a aucun équipement et pas de tablette. Aucun accès à l'information via des réseaux numériques ou Internet. Il y a 1,7 million de personnes qui habitent seules, vivent sous le seuil de pauvreté en France et 7 millions de personnes touchent l'allocation adultes handicapés sur 10 sont isolées. 7 personnes sur 10 touchant l'allocation pour adultes handicapés sont des personnes isolées, ce qui fait plus des deux, presque les deux tiers. Et enfin, au niveau des inégalités scolaires, au niveau national, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, perdu à peu près la trace de 8% des élèves. Et dans les quartiers populaires, précisément, ce chiffre peut être bien supérieur, jusqu'à 25 ou 35%, et dans certains quartiers, voire 40 à 50% des élèves totalement perdus de vue. Voilà. C'est prendre la mesure aussi des difficultés qui existaient avant pour cette famille. Elles se sont évidemment accentuées avec la crise sanitaire.
Elle précise que la France, malgré ses ressources, peine parfois à répondre aux besoins des publics les plus fragiles et salue le travail accompli par les associations.
Mais là, on va se rendre compte que si des pandémies de cette nature devaient se reproduire, et on n'est pas à l'abri qu'elles se reproduisent un jour, on est quand même dans un pays comme la France, qui est un des 10 pays au monde les plus riches, en grande difficulté pour être voilà, très, très proche des personnes des publics les plus fragiles. Néanmoins, on a un réseau associatif extraordinaire en France et un réseau de bénévoles, moi je parle pour mon territoire en Ille-et-Vilaine, qui est absolument exceptionnel, qui s'est mobilisé malgré le confinement, malgré les difficultés, malgré les risques auxquels il s'exposait dans les contacts avec d'autres personnes.
Pour le député LREM du Bas-Rhin, Vincent Thiébaud, la question de l'identification des personnes en difficulté est fondamentale.
Il y a tout le sujet aussi de l'identification. Et là, il faut qu'on ait rapidement la capacité à pouvoir identifier les gens qui soient les plus fragiles. Souvent, comme j'ai dit, les gens qui sont en situation de précarité, il y a aussi beaucoup de pudeur. Il y a aussi beaucoup de pudeur à voir avouer qu'on est en difficulté. Mais ces gens-là, il faut qu'on puisse les identifier assez rapidement pour pouvoir les accompagner, et que ce soit notamment aujourd'hui, je vois sur le département du Bas-Rhin où je suis, ils font énormément d'actions par rapport à ça, il y a toujours cette problématique d'identification pour mieux accompagner la personne. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a encore des mesures qui sont en cours de préparation, je sais, auprès de la secrétaire d'État, Christelle Dubost, et sur lequel notamment travaille aussi Julien Normandie, puisque pourquoi Julien Normandie? Parce qu'il y a toute la notion de la précarité par rapport au logement, par rapport au loyer. Beaucoup de gens qui vont se retrouver avec revenus. Comme je disais tout à l'heure, le reste à vivre est important. Très vite, on paye dans le rouge, et notamment toute la problématique de l'accompagnement et de l'aide par rapport au loyer.
Même constat du côté de Laurence Maillard-Meignery, pour qui les associations peuvent jouer un rôle clé, notamment dans l'identification des personnes qui pourraient bénéficier des aides d'urgence mises en place pendant le confinement.
On va devoir avoir l'aide de ces associations pour identifier les publics, les personnes qui sont hors de ce champ-là, voilà, qui ne sont pas, encore une fois, parce qu'il y a le non-recours au droit, parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires des minima sociaux. C'est ces gens-là qu'il faut un à un trouver et pouvoir aider.
Enfin, pour Florence Morlighem, députée LREM du Nord, il semble nécessaire de revenir sur certaines réglementations qui peuvent aujourd'hui freiner la solidarité. C'est notamment le cas en matière de redistribution alimentaire.
Par exemple, la redistribution alimentaire, aujourd'hui, un restaurateur qui veut céder un surplus qu'il aurait dans sa cuisine demeure responsable s'il fait don de ses repas. Demeure responsable parce qu'il reste au propriétaire en fait. Il n'y a pas eu de rupture du titre de cession, on va dire. Donc, si le repas par la suite est mal consommé, qui provoque, par exemple, une infection intestinale ou quoi que ce soit, c'est le restaurateur qui peut en être responsable. Donc, ça, c'est des freins qu'on peut lever au niveau légistique. Voilà, comme par exemple un boulanger qui veut donner son pain, il doit le donner dans des sacs de meunier, parce qu'un boulanger n'a pas le droit de donner son pain. C'est des freins qui pourraient être levés. C'était un peu aussi l'objet de ma question au gouvernement.
Nous allons désormais échanger avec Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France. Bonjour Cécile Duflot. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'Oxfam France ?
Oxfam est une ONG internationale qui lutte contre la pauvreté et contre les inégalités, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et sur l'impact des inégalités sur la santé des sociétés, plus exactement sur leur mauvaise santé, et comment faire pour s'attaquer à la racine de ce problème.
Pouvez-vous nous parler de la situation française, s'il vous plaît ?
Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre pour la France, c'est que on dit souvent que la France est un pays très égalitaire, que la fiscalité est si élevée, que la redistribution est forte. C'est assez vrai. C'est assez vrai, notamment pour ce qui concerne les inégalités de revenus, c'est-à-dire ce qu'on gagne chaque mois, puisque les inégalités primaires sont à peu près comparables à celles des États-Unis, par exemple. Mais après la redistribution, les inégalités diminuent beaucoup. Donc ça, c'est vrai pour les revenus. Mais au-delà de la question des revenus, il y a une question assez centrale qui est celle de ce qu'on a accumulé, de la richesse accumulée. Et là, la situation française pose beaucoup de questions. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays qui favorise pas du tout la redistribution entre les générations. On est un pays où quand on est dans une famille pauvre, il faut en moyenne 6 générations, 108 ans, pour sortir de la pauvreté. On est dans un pays aussi où 7 milliardaires possèdent autant que 30% des plus pauvres de notre pays. Donc, il faut bien regarder les deux dimensions entre cette question des revenus et cette question de la richesse, parce qu'en fait, il y a une accumulation, génération après génération, qui fait qu'existe une vraie et profonde inégalité qui a plutôt tendance à s'accroître depuis 2018, puisque le taux de pauvreté a progressé de 14,1% à 14,7%. Alors, ce taux-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il y a 400 000 pauvres de plus en France en un an qui sont rentrés dans la pauvreté.
Comment peut-on lutter contre la pauvreté et les inégalités ?
Les inégalités, c'est le résultat de choix politiques, de choix qui favorisent les inégalités ou de non-choix politiques. Notamment quand on se dit, mais on dépense un pognon de dingue et il y a toujours de la pauvreté. Bah, d'abord, on dépense moins un pognon de dingue que ce qu'on dit généralement, puisque les pauvres sont aussi, pour une grande partie d'entre eux, contributeurs. On le sait peu, mais ils payent la TVA. Et en fait, en part de leurs revenus, les pauvres payent plus d'impôts que les riches, notamment du fait de la TVA, qui pèse de la même manière que vous gagnez 30 000 euros par mois ou 285 euros par mois. Donc, c'est là aussi où il faut déconstruire cette idée qu'on fait tout ce qu'il est possible et que ça ne marche pas. Ce qui est donc important de comprendre, c'est qu'au-delà des grandes formules sur ce que ça coûte ou ce que ça coûte pas, le fait qu'il y ait toujours des pauvres, en fait, derrière, il y a des réalités tangibles et des moyens d'action. Notamment quand, par exemple, pour vous donner un exemple, l'aide au logement qu'on appelle l'APL. Il y a des études qui ont été faites sur l'APL et qui montrent que ce que ça produit surtout, c'est que ça permet aux femmes seules avec enfants d'être logées dignement, c'est-à-dire celles qui vivent une double inégalité, l'inégalité de la pauvreté, souvent parce qu'il faut savoir que celles qui sont les plus pauvres, ce sont les femmes, souvent parce qu'elles assument seules justement des enfants, et les familles monoparentales, c'est la catégorie où la situation est la plus difficile. Et cette aide au logement, c'est celle qui permet à ces familles de se loger dignement, par exemple. Donc oui, les aides publiques non seulement peuvent, mais souvent sont très efficaces, et la redistribution est très efficace. Mais plus que ça, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, et ça, c'est la Banque mondiale qui l'a prouvé, les politiques qui réduisent les inégalités sont plus efficaces que la croissance, pour lutter contre la pauvreté, parce qu'elles sont plus efficaces immédiatement et parce que justement cette question du ruissellement dont on entend souvent parler, le fait que plus les riches deviendraient riches, plus ils investiraient, plus ils créeraient de l'emploi, plus ça permettrait de lutter contre la pauvreté, est une croyance erronée. C'est d'ailleurs, voilà, c'est une croyance, ça n'est pas une réalité. Et d'ailleurs, ce que Oxfam a montré dans son dernier rapport, c'est que pour essayer de comprendre d'ailleurs l'ampleur de cette inégalité, c'est que si vous aviez économiser l'équivalent de 8000 euros par jour depuis la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, eh bien vous posséderiez aujourd'hui 1% de la fortune de Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'il y a des échelles qui sont d'une ampleur considérable et qu'on a du mal à réaliser, parce que quand on parle de milliards, eh bien évidemment, on est très vite perdu. Donc oui, la redistribution est possible, oui, elle est juste. Et pour finir, là où elle est encore plus utile, c'est qu'elle permet aussi d'avoir des sociétés en meilleure santé. Parce que les épidémiologistes ont montré que plus une société est inégalitaire, plus tout le monde est en moins bonne santé. Alors les pauvres, ça semble assez logique, ils sont plus pauvres, ils ont moins accès aux services publics, mais en fait, la réalité, c'est que même les plus riches sont en moins bonne santé que les plus riches dans une société plus égalitaire, parce que, sans doute, le stress, d'autres éléments d'explication, ou la violence, qui montrent que une société égalitaire est une société en meilleure santé. Donc voilà pourquoi cette question est centrale, et voilà aussi pourquoi elle est éminemment politique, parce que c'est le cœur des choix fiscaux, notamment, des choix de redistribution, des choix de considérer ou pas qu'une entreprise peut distribuer des parts aussi considérables que celles qu'on a connues en France en dividendes, c'est-à-dire à ses actionnaires, plutôt que pour investir notamment dans la transition écologique ou pour redistribuer aux salariés. Que la question de l'augmentation des salaires dans les entreprises, elle est intéressante, parce que quand on dit que les salaires augmentent en moyenne dans une entreprise, si on ne décompose pas entre les plus bas salaires et les plus élevés, on peut se tromper, on peut avoir une augmentation moyenne, mais qui est essentiellement le fait des hauts, voire très très hauts salaires de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le PDG du groupe Sanofi, on est dans une période où les questions médicales sont au centre de notre agenda, et bien le PDG du groupe Sanofi gagnait en 2018 plus de 343 fois le salaire moyen d'une aide-soignante française. C'est ça la réalité. Donc, il faut aussi se dire que face à ça, il y a des réponses qui sont des réponses extrêmement concrètes sur l'encadrement des dividendes. Et Oxfam demande que dans la période notamment actuelle, il n'y ait pas de distribution de dividendes, que les entreprises utilisent leur argent pour amortir la crise et éventuellement aussi, surtout, pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, il y a quand même encore des entreprises qui ont distribué des dividendes et qui ont fait appel au chômage partiel, c'est-à-dire au fait que l'État paye leurs salariés à leur place, qui, quand on y réfléchit, est parfaitement inacceptable. Donc voilà pourquoi cette question, elle est fondamentale, parce qu'elle touche à la cohésion, à la santé même de nos sociétés.
Nous traversons une crise sanitaire très grave. Quelles peuvent être les conséquences de cette crise sur la pauvreté et les inégalités ?
La crise du Covid qu'on vit en ce moment, c'est une crise sanitaire, évidemment, avec des dizaines de milliers de morts et peut-être encore plus, puisque dans beaucoup de pays, la courbe est encore ascendante, donc on est loin d'avoir gagné la bataille contre le virus. Mais c'est aussi un autre risque, c'est celui de voir basculer dans la pauvreté, voire dans la faim, un demi-milliard de personnes à l'échelle de la planète, c'est le chiffre que nous avons publié dans notre récent rapport, parce que le système économique est complètement déréglé, parce qu'une partie des gens qui gagnaient de quoi se nourrir chaque jour, l'arrêt de l'économie, l'arrêt du tourisme, l'arrêt d'un certain nombre d'activités les fait basculer dans la pauvreté. Alors ça vaut pour les pays du Sud, mais ça vaut aussi pour certains auto-entrepreneurs, pour tout un tas de gens ici en France. Donc il faut être conscient que cette réalité-là, la réalité de l'aggravation de la pauvreté, elle traverse l'ensemble de la planète. Mais elle est aussi le révélateur d'un système économique qui était dysfonctionnant. Elle agit comme une sorte de miroir grossissant des inégalités, puisque ce sont les plus pauvres qui en ressentent les impacts les plus forts, que ce sont ceux qui sont dans le secteur informel, dans les contrats précaires. Sur les femmes, l'impact est notable, et il est doublement notable puisqu'on voit aussi en même temps que les femmes sont celles dont on a le plus besoin de fait dans la crise, parce que dans le monde, 70% du personnel de santé, ce sont des femmes. Et en France, le pourcentage est peut-être encore plus édifiant, puisque les infirmières sont à 87% des femmes, les aides-soignantes à 91%, les aides à domicile et les aides ménagères, celles qui s'occupent notamment de toutes les personnes âgées, c'est à 97% des femmes. Et puis, si on va un tout petit peu plus loin, les caissières et les vendeuses, à 76%, ce sont aussi des femmes. Donc, celles qui ont les plus bas salaires, qui ont parfois des conditions les plus compliquées, avec des horaires décalés, avec une grosse pression sur leur métier, ce sont celles qui portent la société aujourd'hui, ce sont des femmes. Et donc, c'est quand même très intéressant d'ouvrir les yeux, d'en profiter pour ouvrir les yeux sur cette réalité, sur ceux et surtout celles dont on a besoin dans une période d'extrême vulnérabilité. Par ailleurs, dans la même période, le système économique dysfonctionnant qu'on a connu, celui qui verse des dividendes, qui prépare pas l'avenir, se poursuit, puisque plusieurs grands patrons ont décidé de verser quand même des dividendes à leurs actionnaires. Total versera cette année plus de 7 milliards d'euros de dividendes, et que une partie des grands patrons se sont aussi octroyés des bonus. Alors certains ont fait des efforts, et c'est peut-être un premier bon signe de lucidité sur la réalité de la crise, mais maintenant il faut quand même se dire qu'on ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'après 2008, parce que le sauvetage des banques et des entreprises après la crise de 2008 a été financé par les citoyens et les citoyennes ordinaires. La crise a coûté beaucoup de pertes d'emplois, elle a coûté la stagnation des salaires et des coupes massives sur les services essentiels et sur les services publics. Donc on ne doit pas, on ne peut pas, il serait inacceptable de reproduire la même chose, puisqu'on voit aussi que ces coupes dans les services publics et notamment dans la santé ont eu des conséquences et auraient pu avoir des conséquences encore plus graves dans la période que nous avons connue. La question, ce n'est pas d'opposer les uns aux autres, c'est de se dire qu'en temps de crise et face à des enjeux qui sont des enjeux considérables, tout le monde doit prendre sa part. Les citoyens, les citoyennes, aujourd'hui, chacun doit assumer la santé collective par des mesures de distanciation sociale, par le port du masque, par le fait de continuer à travailler à domicile pour ceux pour qui c'est possible, etc. Mais ça veut dire aussi que les actionnaires doivent prendre leur part, les entreprises doivent prendre leur part, et l'État aussi doit mettre en place maintenant des mesures de rupture pour repenser notre système économique. Parce que si le virus est une crise aiguë, violente, mondiale, elle ne doit pas faire abstraction de ses causes. Et une partie de ses causes, on ne sait pas si ce virus-ci, très directement, est immédiatement lié aux causes qui ont fait que les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui passent des espèces animales vers les espèces humaines, ont augmenté. Mais ce qui est certain, c'est que tous les scientifiques qui travaillent sur la perte de biodiversité disent depuis des années que les zoonoses augmentent et qu'elles risquent d'augmenter, et certains avaient même documenté le risque d'une pandémie comme celle que l'on traverse. Donc il faut écouter de la même manière les scientifiques qui aujourd'hui alertent sur les conséquences du dérèglement climatique, qui sont là aussi planétaires, qui sont là aussi irrésistibles et qui impacteront brutalement notre vie. Donc il faut prendre appui sur la situation dans laquelle nous sommes pour engager la transition. Et c'est à ça qu'appelle Oxfam, c'est de dire maintenant ne reproduisons pas les erreurs du passé, ayons des mesures d'urgence tout de suite pour faire face à la crise et préparons l'avenir. Ces mesures d'urgence, c'est la suspension immédiate des versements, des dividendes, des bonus et des rachats d'actions, tant que durera la crise, mais aussi, a fortiori, pour toutes les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques pour la traverser. C'est aussi refuser maintenant définitivement d'aider les entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire qui pourraient même utiliser une part de ces aides publiques pour améliorer leur optimisation fiscale, c'est-à-dire de fait la fraude vers les paradis fiscaux, y compris ceux que l'Europe, pour l'instant, se refuse à appeler comme tels, parce qu'ils existent, et que quand il y a de la concurrence fiscale entre pays européens, c'est à la fin du fin les salariés, les citoyens qui en payent le prix. Il faut aussi, évidemment, intégrer le climat dans le plan de relance. Ce qui se passe avec les compagnies aériennes ou avec ce qui peut se passer avec les entreprises de l'automobile qui vont se relancer comme avant dans des productions ou dans des modes de production qui sont dévastateurs pour l'environnement, ça n'est pas possible. Et même une entreprise comme Air France peut évoluer. L'histoire des entreprises qui évoluent, ça existe. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre des avions diminuent. Évidemment que c'est un chemin nécessaire, mais il faut aussi aller vers la substitution des transports inutiles et puis développer peut-être l'activité d'Air France vers d'autres activités. Dans l'histoire, les compagnies aériennes ont eu bien d'autres activités que la seule activité de faire voler des avions. C'est la même chose avec la SNCF. La SNCF a une filiale qui fait du transport en routier, que ce soit par bus ou du transport de marchandises, et c'est pas forcément d'ailleurs souhaitable, et donc on peut évidemment faire évoluer les entreprises, et là, leur capacité d'action, elle doit être favorisée, soutenue et même parfois contrainte par la puissance publique. C'est la même chose au niveau international. Il faut absolument que l'annulation de la dette et notamment de l'annuité 2020 des pays pauvres soit décidée, parce qu'on ne peut pas imaginer ne pas penser à la solidarité au niveau mondial, mais surtout laisser les pays les plus fragiles se débrouiller seuls face à la pandémie, au risque d'aggraver la situation sanitaire mondiale, mais au risque aussi d'un drame humain considérable dans ces pays. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça sur ces mesures d'urgence, il faut aussi se dire que les mesures que nous défendions avant la crise, des mesures de régulation, d'une fiscalité plus juste, de reconsidérer l'importance sociale de certains métiers et de valoriser les métiers à prédominance féminine qui ont été largement dévalorisés, que ce soit en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de salaire et de rémunération. Ça, c'est un chemin qu'il nous faut poursuivre, de la même manière que nous appelons à une mesure donc immédiate sur les dividendes, mais il faudra maintenant réfléchir à encadrer le versement des dividendes pour les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire pour pouvoir financer la transition écologique et sociale des entreprises et travailler aussi à la réduction d'un écart qui est devenu vertigineux des salaires au sein des mêmes entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de la question du soutien aux pays du Sud par l'annulation de la dette, mais il faudra évidemment continuer de travailler sur l'aide publique au développement et de faire en sorte qu'on ait une vraie solidarité face à la maladie par un vaccin et des traitements gratuits et ouverts à tous et toutes, parce que c'est le seul bon moyen de lutter contre la pandémie. Enfin, et on l'a vu, on a souffert d'un manque de régulation internationale. L'OMS a été parfois mise en cause, mais surtout, on a vu que l'Europe a peiné à jouer son rôle d'amortisseur de la crise et d'organisateur de la solidarité européenne. Donc, il faudra que ces institutions évoluent, qu'elles évoluent vers la transition écologique et notamment que leurs outils financiers, je pense en particulier à la Banque européenne d'investissement, mais aussi aux outils financiers de chacun des États, la BPI en France, l'Agence française de développement ou d'autres, désinvestissent massivement des énergies fossiles au profit des renouvelables pour qu'on puisse agir encore plus vite et encore plus fort face à cette autre crise qui nous menace après la pandémie, qui est celle plus lente peut-être, mais aussi sans doute peut-être plus dévastatrice encore, qui est celle du dérèglement climatique.
Cécile Duflot, merci beaucoup pour cet excellent entretien. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.